Et oui, cette année, la bande originale, ça continue même le samedi. Mais comme le dit le proverbe, samedi, c'est pas Nagui. C'est donc moi, Daniel Morin, qui vais vous accompagner durant cette heure avec le meilleur de la semaine de la bande originale. Au sommaire aujourd'hui, André Dussolier, Eric Orsena, Roche Dizem, Catherine Yégel, Emmanuel DeVos, Eric Lartigot et la bande au grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti.
Vous allez bien, André, ravi de vous accueillir.
Moins bien que Patrick. ça va très bien.
Novecento, on en avait parlé, on l'avait vu, on l'avait apprécié. Ça s'était passé au Théâtre du Rond-Point. Vous reprenez d'ailleurs au Théâtre du Rond-Point du 1er septembre au 1er octobre. Puis une petite semaine de remise en forme, de thalasso, de détox, que sais-je, pour reprendre ensuite le 6 octobre jusqu'au mois de décembre au Théâtre Montparnasse. L'histoire d'un gamin qui naît sur un paquebot lors d'une traversée, qui est abandonné sur un piano et qui devient le plus grand pianiste de l'histoire de la musique, voilà, jazz.
Un conte de Baricot, et en effet, c'est toutes les histoires de cet enfant qui se balade entre l'Europe et les États-Unis, qui découvre toutes les musiques, qui est abandonné sur son piano, qui est élevé par l'équipage, et c'est une grande liberté d'autodidacte qui fait comme ce qu'il veut avec la musique, et qui joue le jazz qu'il découvre, et puis qui joue aussi les classiques qu'il connaît à la manière du jazz. Enfin, c'est très vivant, et puis donc j'ai la chance d'être accompagné par un quatuor de jazz.
Alors, j'espère maintenant, Albert Alou, que vous avez bien compris pourquoi, enfin c'est pas Albert d'ailleurs, c'est Jean-Dominique Besnéard,
oui.
Pourquoi nous avions invité André Dussolier. Il a compris maintenant.
Ouais, salut Nagui, salut les second rôle, les chauffifres, salut André Dussolier. Alors je me présente, effectivement, Jean-Dominique Besnéard. Alors attention, pas de confusion fâcheuse
non.
Avec mon cousin Dominique, qui a un défaut de prononciation absolument atroce.
Je l'embrasse.
Lui, il était agent des stars.
On l'embrasse.
Moi, je l'embrasse.
Sophie Marceau, Jabella Gianni, Cécile de France. Moi, je suis l'orthophoniste des stars, du cinéma et de la chanson. Mon job, c'est coacher les stars pour bien respirer, bien prononcer. Par exemple, c'est moi qui ai coaché le Mime Marceau. Bon. Alors, je sais alors vous pensez tous, je vous entends penser, hein. Qu'est-ce qu'il fait dans ce studio, ce type-là? Bah, c'est simple, c'est Nagui qui m'a adressé un SMS. Alors, je cite.
C'est pas facile à dire déjà ça.
Jean-Dominique, je reçois André Dussolier pour son spectacle Novecento. J'ai besoin de toi d'urgence. Donc, là, c'est moi qui reprends la parole. J'arrive ce matin France Inter et là, Nagui me chuchure. Je cite de Rochef. Jean-Dominique, faut que je te dise, je suis arrangé pour recevoir Dussolier parce que sa pièce n'a pas commencé, ce qui me donne une excuse pour pas y avoir assisté.
Si, mais si, au contraire.
Ouais, c'est,
on a déjà vu.
Idem pour chez Feignas de la bande originale. Pas vu la pièce.
Mais si, là, il l'a vu aussi.
Mais a poursuivi Nagui. Chute, silence. Mais a poursuivi Nagui, Dussolier, franchement, son succès, pour moi, c'est incompréhensible. Pour dire ses textes, il ouvre à peine la bouche, les lèvres serrées, avec les commissures sous tension. C'est pas de la diction. Donc, Jean-Dominique, comme t'es l'orthophoniste des stars, je ne sorte que pour tester sa prononciation à Dussolier. Bon. Alors, cher André Dussolier, je partage pas du tout la perplexité de Nagui, son scepticisme. Moi, je vous avais trouvé sans sas dans Monstre sacré, sacré monstre. Exceptionnel dans les pièces de Tchekhov, Schindler, Max Frisch, Sacha Guitry. Mais pour rassurer Nagui, je vais vous soumettre un test de diction dont je suis sûr que vous allez vous sortir avec succès. Vous allez répéter après moi les phrases inscrites sur ce papier que voici. Alors, vous allez répéter. Combien c'est 606 au 606? 6 sous, c'est 606 au 606. Allez, vas-y.
Combien c'est 606 au 606? 6 sous, c'est 606 au 606.
Accélère.
Sur un auto.
On enchaîne, Plus difficile, plus difficile. Je cherche chez Chio, chez Sancho. Je cherche chez Chat, chez Sacha. Je cherche chez 1616, 16, chez Sanchez.
C'est pas possible, on n'a jamais eu des phrases comme ça au conservatoire.
Si,
je cherche chez Chio, chez Sancho. Je cherche chez Chat, chez Sacha. Je cherche chez 1616, 16, chez Sanchez.
C'est la classe. Et maintenant, une dernière à toute vitesse. Une dernière. Si je mouille mes coudes, se mouillent-ils? Oui, mes coudes se mouillent.
Il y a un truc derrière, là, non?
En vitesse.
Si je mouille mes couilles se mouillent-ils? Oui, mes couilles se mouillent.
Accélère.
Si je mouille mes couilles se mouillent-ils? Oui, mes couilles se mouillent.
Voilà. Vous voilà.
Voilà le piège.
Voilà, c'est super. Vous êtes rassurés, Nagui. Alors, bonne émission.
La bande originale, les meilleurs moments,
sur France Inter.
Éric Orsenna, voulez-vous répondre à la perfidie de Maréchal Ganache qui...
concernant les puissants ?
Oui.
Mais aucune perfidie. C'est la réalité des choses. Nous sommes tous des courtisans. Est-ce que, pensez une seconde, que si vous n'étiez pas courtisan, vous auriez cette émission ?
Oh, salaud !
Est-ce que une seule fois, quand vous voyez Laurence Bloch arriver, Laurence Bloch, notre directrice bien-aimée, tout le monde se lève, on lui envoie des baisers, on la salue, on la remercie, on la glorifie dans les siècles des siècles. C'est normal. Oui, c'est normal.
Et vous le dites,
il y a une différence entre la politesse et le respect. Oui. En effet, si notre directrice principale, générale et noble, Laurence Bloch, rentre ici,
ça suffit. C'est là, vous avez dépassé la politesse pour entrer dans la courtisanerie.
Mais
vous voyez?
Non, j'allais au contraire dans la vanne, mais devenir en effet flatteur et courtisan, c'est encore autre chose. Là, la pique du maréchal Ganache en reprenant à son compte La Fontaine pour vous vanner sur Mitterrand, sur Macron.
Attendez, rien à voir. Ah non, Mitterrand, j'avais 34 ans, il me nomme son conseiller culturel. Quand vous êtes conseiller culturel de François Mitterrand, vous êtes impressionné.
Pardon, j'ai dit Mitterrand-Macron, la politesse voudrait que je dise Mitterrand, Emmanuel Macron.
Oui, non, c'est pas ça. Non, et j'étais vraiment impressionné. Il se trouve que Emmanuel Macron, je le connais depuis 10 ans, c'est mon copain, ça reste mon copain, et voilà, c'est tout ça, ça n'a rien à voir. Et puis moi, j'étais en fonction auprès de François Mitterrand, très impressionné, je vous assure, vous êtes à côté de lui, vous étiez impressionné. Emmanuel Macron, j'ai aucun poste auprès de lui, j'en aurais aucun.
Pour l'instant voilà.
Non, rien, je garde ma liberté, et c'est pas à 70 ans qu'on commence une carrière de ministre.
D'abord, les oreilles de Leïla ont sifflé, Leïla, quand on vous annonçait la venue d'Éric Orsenna.
Et oui, quand je pense à vous, Éric Orsenna, je pense à un moment qui a dû marquer votre vie de façon assez intense.
Le concours 1988 a été attribué au sixième tour de scrutin à Éric Orsenna pour l'exposition coloniale par 5 voix contre 4 à Bernard-Henri Lévy et 1 à François-Olivier Rousseau.
C'était en 88, le prix Goncourt, Éric Orsenna.
Biagel vous en veut ?
Ben évidemment.
Le sixième tour, il n'y a pas de quoi la ramener non plus. Hein.
Non, bah, ça vaut
serré.
Mieux que.
D'ailleurs.
C'était pas une évidence.
Franchement,
ça.
C'était super bien. Parce que c'était 5-4, donc c'était chaud quand même.
Ah oui. Puis, bah oui.
Moi, j'étais rien. Bernard Lévy, c'était la star qui est restée, bien sûr. Et donc, je me souviens le bonheur en entendant ça. Ouais. Je me disais, c'est fait. C'est-à-dire, on ne va plus en parler. Et donc, j'ai eu un sentiment immense de liberté à ce moment-là.
Vous avez mis 8 ans à écrire ce texte qui a été récompensé. Est-ce que vous êtes un lent,
un laborieux
comme La Fontaine.
Consonne, voyelle, consonne, voyelle.
Oui, ça dépend vraiment des livres. Il faut dire que j'écris depuis l'âge de 10 ans. Oui. Donc, j'écris 11 romans que j'ai jetés chaque année, parce que j'écrivais dans l'année et puis je jetais pendant l'été. Et puis, j'ai montré le 12e qui, heureusement, a été refusé, que le 13e a été accepté, 600 exemplaires. Exemplaire, parce que j'ai une grande famille, et le 17e seulement à Le Goncourt. Donc je suis l'incarnation même du manque de dons et de ce qu'on peut arriver avec une obstination maladive.
Avec ce côté laborieux dont,
mais plus que,
bah, dont laborieux. Vous parlez, comme La Fontaine.
Alors oui, sauf que lui c'est un génie, moi je suis un auteur et donc ça change tout. Mais c'est vrai que lui, il a pris son temps en marmonnant. Et ce qui est très intéressant, c'est que les contes, il les écrivait assez vite, mais les fables, ça prenait beaucoup de temps. Et alors, pour répondre à votre question, il y a des livres qui viennent très vite, et d'autres qui maturent, c'est de l'ordre du compost, de la fermentation, et puis de temps en temps, il y a une sorte de similifleur.
Le prix, c'est le 17e, vous avez dit, 17e roman ?
Oui.
Ouais. Vous êtes très 17e siècle.
Je suis 17e.
Il faut jouer 17 au loto, vous habitez dans le 17e.
Oui, fauteuil 17, tout, 17. 17.
Ah oui, c'est ça, c'est à l'académie.
Oui, fauteuil 17.
Non.
Mais c'est...
Le fauteuil du commandant Cousteau.
On va voir des signes partout.
Mais vous allez voir, bientôt nous allons accueillir un psychiatre, il va nous dire ce que ça veut dire 17.
D'accord.
Et Éric Orsenna, votre rapport aux honneurs, quand en 88 vous remportez le prix Goncourt, est-ce que remporter un prix comme celui-ci, c'est pas une façon justement de se dire qu'on accède à une forme d'indépendance et qu'on n'est plus soumis à cette sensation d'être un courtisan, comme vous l'avez dit, et qu'on gagne en liberté?
Alors, c'est la question la plus pertinente que j'ai jamais entendu, sur ce point.
Apprends que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute.
C'est que vraiment, à l'instant même où j'ai entendu que je recevais le prix, je me suis dit, je suis libre. Parce que parmi les écrivains, ceux qui disent, j'en ai rien à foutre du concours, c'est des immenses menteurs. Donc, comme dit le maître absolu Jean d'Ormesson, la meilleure façon d'être libre avec les honneurs, c'est les avoir le plus vite possible.
C'est joli.
J'adore Meusson. Donc après, on est libéré. Et puis 10 ans après, il y a eu l'Académie. Donc après, je me suis dit, les honneurs terminés. Voilà.
Et
puis voilà.
Et alors, après, le Panthéon, après.
Oui, le Panthéon.
Et on fait quoi de cette liberté?
Mes veuves vont être ravis.
Éric Orsenna, on fait quoi de cette liberté, justement?
D'abord, on prend du temps pour écrire après. En plus, on fait exactement les livres qu'on a envie de faire. C'est-à-dire de la liberté.
Parce que les auteurs ne font pas le livre qu'ils veulent.
Écoutez, il y en a qui disent tous les 2 ans ou tous les 3 ans, on fait un roman. Moi, j'ai envie de faire des contes. J'ai fait des petits contes sur la grammaire. J'ai fait des biographies. Mmh. J'ai fait des promenades sur le coton, sur l'eau, sur le papier, sur les moustiques, tout ça. Donc, j'ai eu un sentiment immense de liberté. On fait ce qu'on veut. Voilà. Et donc, ça a été un moment tout à fait merveilleux. En plus, celui qui avait le Renaudot, c'était René Depestre. C'était un Haïtien. Donc, on a fait un tour de France hallucinant. Hallucinant tous les deux. Et c'était un grand, grand moment où on échangeait parce que on a annoncé notre mariage. C'était un tour de France qui était
sous le signe de l'alcool, un peu, non?
Absolu. Oui, le rhum. Donne du rhum à ton auteur.
La bande originale. Sur France Inter.
Ah, c'est bien beau de se marrer, mais la musique dans tout ça, hein? Elle est où? Eh bien, elle arrive. Coco Caline. Julien Doré. Yeah. peu de douceur, c'était Julien Doré et sa Coco Caline. Nettement, mais nettement moins câlin, le meilleur de la bande originale, ça continue jusqu'à 18h avec L'Humeur de Thomas Wiesel.
Bah déjà, je suis très content de rejoindre la bande originale et France Inter, un Suisse sur France Inter, parce qu'il y en a marre, il y a déjà 18 Belges ici, il n'y a pas de raison. C'est on n'est pas plus con que les Belges, nous. Hein, il y en a marre que les Belges soient considérés comme les voisins drôles et nous, les voisins riches. On veut être drôles aussi, mais on garde riche quand même, parce que ça, on aimait bien. Donc, on vient de m'informer du cachet ici. C'est une blague, Nagui. C'est avec qui qu'il faut coucher pour avoir un salaire décent dans ce pays? Enfin, à part François Fillon, parce
avec
que
Daniel
ça, je suis
Morin.
Pas prêt. Daniel Morin, je suis pas prêt non plus. D'ailleurs, Fillon a retrouvé du travail cet été. Où ça? Dans la finance. Parfois, la réalité est bien plus drôle que les vannes qu'on passe des heures à écrire. Le type a avoué galérer en fin de mois malgré un salaire de 26 000 euros. Il gère aussi bien son argent qu'un rappeur dans un strip club et il est engagé par un fonds d'investissement. Je pense que les investisseurs, ils vont prendre rendez-vous avec Fillon juste pour écouter ses conseils et ensuite faire exactement l'inverse. En parlant d'investissement rentable, il y a Macron qui a payé sa maquilleuse 26 000 euros en 3 mois, 26 000 pour se repoudrer le nez. Même Jean-Luc Delarue se retourne dans sa tombe. Oh. Si ça se trouve, elle les vaut. Hein. Peut-être qu'en vrai, il a le même âge que sa femme, mais la maquilleuse est vraiment incroyable. Et cet été, tous les grands de ce monde sont partis en vacances. Vladimir Poutine est allé pêcher du brochet au harpon en Sibérie à torse nu. Les vacances de Poutine, on dirait un épisode de Serge le Mytho. Je suis allé pêcher en Sibérie, j'ai conduit un sous-marin nucléaire, j'ai envahi la Crimée, j'ai piraté les élections américaines sur la vie de ma mère. Et son ancien opposant, Garry Kasparov, vous avez vu, il a arrêté la politique pour se remettre aux échecs. Bon, c'était pas nécessaire, je veux dire politique et échecs. Jean-François Copé prouve qu'on peut cumuler les deux avec brio. Et quant à Jean-Marie Le Pen, il a passé l'été. Oui, la phrase est finie, il a passé l'été, c'est déjà une news. Et il va publier ses mémoires, c'est une bonne idée car c'est quelqu'un qui a tendance à oublier pas mal de choses, par exemple les chambres à gaz. Les mémoires de Le Pen, moi je pense que ça va faire passer Tintin au Congo pour une BD afro-féministe. Hein. Il est visiblement déterminé à faire chier à sa fille jusqu'au bout. Il est sur YouTube, il sort un bouquin, il va bientôt lancer son compte Instagram et faire un album de rap. Il ferait bien de la télé, mais il y a trop de juifs et de PD. Celle qui va prendre de très longues vacances, c'est l'horloge de Big Ben, vous avez vu ça. Big Ben sera muette pendant 4 ans à cause de rénovation. Du coup, j'ai déposé un permis de construire pour rénover Nadine Morano. Ne me remerciez pas. Cet été, c'était aussi le grand retour médiatique de François Hollande. Je ne sais pas si vous a manqué. Hollande, c'est un peu l'herpès. Hein. T'as fait une connerie, tu l'as attrapé, donc tu sais qu'il sera toujours là, mais ça t'arrange quand même s'il se manifeste le moins souvent possible. Et quant à Donald Trump, selon CNN, ses vacances ont déjà coûté autant que durant un mandat entier d'Obama avec les frais de sécurité et de transport. Et il tient ses promesses, hein, Trump, de relancer l'économie et de créer du travail, mais seulement si t'es caddie de golf, pilote d'avion ou garde du corps. C'est parce qu'il faut payer pour protéger 18 personnes de sa famille, dont ses 5 enfants, ce qui prouve une fois de plus que la protection la moins chère, ça reste une capote. Mais il se fait facilement souffler le record par le roi d'Arabie Saoudite. Vous avez vu ce record? 100 millions de dollars dépensés pendant ses vacances au Maroc. 100 millions pendant ses vacances, c'est un sacré budget souvenir. Hein. Ça en fait des assiettes de coquillages, ça quand même. Et il picole pas, donc il a claqué tout ça sobre. Comment t'arrives à 100 millions? T'engages Neymar comme maître nageur? T'as Mbappé en prof d'aquagym? 100 millions. Il s'est dit, j'irai bien au Maroc. Il allait sur Airbnb, il a loué le Maroc. Et il y a ceux qui n'ont pas pris de vacances. Vous avez vu les terroristes, les néo-nazis, les psychopathes en tout genre qui ont continué à tuer pendant l'été alors qu'il a fait si beau. Moi, je comprends pas. J'ai une bonne nouvelle pour eux. On vient de réformer le code du travail du monde entier. Prends ça, Macron. Il y a une clause spécialement pour eux. Ils sont en vacances à vie. Plus rien besoin de faire. Retraite anticipée. Le but, c'est qu'on n'entende plus jamais parler d'eux. Disparaissez. Ou comme on dit dans le showbiz, faites une Magali Vae. Merde, personne dit ça. On va griller que je suis pas du tout dans le showbiz. Pourtant, je connais Nagui. Ça va, Nagui? Moi, c'est Thomas. Si jamais vous avez passé de bonnes vacances, c'est passé un bon été. Merci. Pas trop dur la rentrée?
Je te le dirai à la fin de journée.
Ouais, vous avez toujours votre jeu télé, là? Comment ça s'appelle votre jeu de dépistage d'Alzheimer précoce, là, la télévision?
N'oubliez pas les paroles.
N'oubliez pas de remettre un peu
de respect. Parce que André Dusselier adore cette émission.
Oui, mais moi aussi j'adore. N'oubliez pas de changer les piles dans la télécommande pour regarder quelque chose d'autre. Voilà, c'était ma première, ma dernière chronique de la bonne
originale. C'est ta dernière, je te confirme. Merci Thomas Wiesel. Le prix du succès, le film sort aujourd'hui et vous avez dit dans une interview d'ailleurs, puisqu'on tout le monde vous dit, et vous, le prix du succès, vous, comment ça s'est passé, vous, le regard, la famille, les potes, vous avez dit dans une interview, à confirmer d'ailleurs si c'est vrai, parce qu'on sait, on sait jamais entre ce qui est dit et ce qui est rapporté ou est réécrit après dans des interviews, vous avez dit que la trahison avait commencé lorsque vous avez quitté le quartier pour venir vivre à Paris. Rien que ça déjà.
Trahison, c'est un grand mot, mais ouais, la rupture en tout cas.
C'est ça.
Oui, bien sûr. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le fait d'accéder à un milieu comme celui du cinéma qui crée cette rupture, c'est simplement le fait de quitter le quartier, de passer de l'autre côté du périph' et d'aller
c'est dingue ça.
Et ça ouais, suffit à créer quelque chose de clivant entre vos amis d'enfance et
enfin, c'est quand même genre tu nous quittes, quoi. Tu nous aimes pas, tu vas chercher ailleurs.
Non, c'est pas tu nous aimes pas, c'est tu nous montres que c'est possible, mais sauf que nous on reste et du coup, comme je fais pas l'effort aussi, enfin voilà, c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui, 30 ans plus tard. Mais c'est des torts partagés aussi, parce que nous aussi, on est un peu mal à l'aise par rapport à ça. On le sait qu'on quitte quelque chose. On le sait que C'est notre façon aussi de nous trouver, c'est de quitter ceux avec qui vous avez grandi. Et
Est-ce que justement on ne peut grandir ? Tout à l'heure, vous avez dit il faut changer de milieu social pour grandir.
Je ne sais pas s'il faut changer de milieu social, mais il faut aller à la rencontre des gens, de tout milieu confondu, évidemment. Alors, le cinéma vous amène à rencontrer des gens intéressants, curieux, importants, mais c'est vraiment, il faut quand même rester ancré dans la réalité, ça c'est important. Surtout quand on écrit des films, si vous ne savez pas ce qui se passe dans les quartiers, dans les zones rurales, etc.
On
perd tout contact avec la réalité et votre œuvre s'en ressent. Donc c'est important de rester au contact.
C'est drôle ce que vous dites parce qu'il y avait un film, je ne me souviens plus du titre, vous jouiez le rôle d'un éducateur qui emmenait à la campagne, justement en zone rurale.
Camping à la ferme.
C'est formidable ce film.
Et vous, comment vous avez géré avec votre famille, Roche Dizem?
J'aurais rien demandé, surtout.
Votre ascension, elle a été fulgurante.
Non, pas du tout.
Bah quand même, vous avez fait des rôles tout d'un coup qui vous ont projeté.
Oui, mais ça m'a pris une dizaine d'années. Donc pendant 10 ans, j'ai beaucoup fait charrier. Et par la famille et par les amis. J'étais l'acteur qu'on voit nulle part. Et puis quand c'est arrivé. Moi, j'ai eu que de la bienveillance. J'avais des parents qui étaient très protecteurs, mes frères, ma sœur également. Et ça continue d'ailleurs, c'est toujours le cas. Mais donc j'ai du mal à me reconnaître dans le personnage de Brahim, ce qu'il a vécu. Mais en même temps, on était des précurseurs.
Vous n'avez jamais entendu la vanne de « Salut l'artiste, c'est toi l'artiste, alors le show business,
mais grave.
Tu viens quand même nous voir, et pourquoi il n'y avait pas de soirée de César ce soir ?»
Il est sympa Nagui, il est sympa Nagui.
Oui, comment Michel Drucker? Non mais oui, forcément.
Mais bien sûr, non, mais moi c'était surtout... En fait, ce qui est assez étrange, c'est tant que je ne marchais pas, je faisais rire tout le monde. Puis quand j'ai commencé à faire des films, là, j'ai vu les sourires s'effacer et un rapport qui était difficile pour moi à gérer avec mes amis, notamment, moins que la famille. Moi, dans ma famille, j'ai surtout vu du soutien et de la fierté. Avec les amis, c'est devenu complexe. Je ne saurais pas vous dire et je n'ai pas su le gérer, en tout cas.
Mais ça commence avec les sapes, déjà, le premier truc.
Les sapes, je me...
Non, parlez pour vous, Nagui.
Alors, ce qui est étrange avec les sapes, puisque tu parles des sapes, je me sapais beaucoup plus quand je n'avais pas d'oseille.
C'est vrai?
Ah ouais, bien je sûr. Mettais tout, je travaillais au puce, tu le sais, et je mettais tout mon salaire dans la sape. C'est quand j'ai commencé à gagner l'argent, je dis, j'arrête de m'habiller, ça sert à rien. La sape, c'est vraiment pour camoufler.
Le prix du succès avec Tahar-Raïm, Roche Dizem et Maïwenn, c'est-à-dire deux réalisateurs et réalisatrices aussi qui se retrouvent, dirigés par Teddy Lucie Modeste, qui a bien assuré, ce film sort aujourd'hui. Mais d'abord, la bande originale de Roche Dizem, on va commencer en 1987 et ses débuts lorsque vous écoutiez Roche Dizem, Prince.
Ship explodes and everybody steals to fly. Some say man ain't happiness, man truly dies. Oh, time.
Prince, Sign of Time, les années 80 justement, ce sont les débuts sur scène. Théâtre comme cinéma d'ailleurs, figurant, ça, il fallait trouver... Tout était bon, les castings. Est-ce que vous avez vécu les situations que l'on peut imaginer, c'est-à-dire se pointer dans des rendez-vous avec une salle comme ça, avec une vingtaine de personnes qui attendent, avec le bouc sur les genoux suivant, et puis un petit côté abattage, quoi, bétail,
bien sûr,
trop
bien
grand,
sûr.
Trop maigre.
Alors
c'était
pas des boucs parce que c'est plutôt les mannequins. Mais moi j'ai mes premiers castings, j'avais des photos d'identité là, les quatre photos noires.
Photomaton.
Ouais, photomaton. Et on faisait la queue et on avait 2 minutes pour convaincre. Parfois on disait bon alors t'as une arme et on te donnait un morceau de papier en guise de flingue et tu devais convaincre le directeur de casting
que t'étais crédible
en le braquant avec un bout de papier mais je prenais ça à la rigolade à l'époque. Enfin je me prenais pas trop la tête. Je faisais ça entre j'ouvrais mon stand, j'allais faire les castings, je retournais au stand, au puce.
Au puce, vous vendiez quoi? Au puce.
De la fripe. J'ai commencé dans la chaussure d'abord, et puis après...
Ah, Nagui était intéressé alors. Je
suis toujours intéressé par les fripes.
Je peux regarder vos pieds et vous dire votre pointure sans problème. Non, sérieux. Non,
alors les 39.
On ne monte jamais l'intérieur, on monte toujours l'extérieur de la chaussure.
Vous savez, il est vieux, s'il tord la jambe, il tombe. Hein.
La Roche Dizem se lève.
C'est un 43, mais vous faites du 42, parce qu'en basket, on met toujours une pointure de plus. C'est ça ou pas?
C'est ça. C'est
vous deviez être un vendeur assez fou.
Un vendeur.
Ouais, juste la façon dont vous l'avez regardé, je suis sûr que vous auriez pu lui vendre du 45.
Ah, bien sûr.
Avec du journal au bout.
Il paraît que vous avez même réussi à vendre des chaussures de ski à des culs de jatte.
C'est arrivé, c'est vrai, mais vous avez raison en plus. Il y a un cul de jatte. Et c'était très gênant parce que je lui ai mis la deuxième chaussure. chaussures dans la boîte, il me dit qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse. Je sais pas, ça se vend par terre, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai. C'est très gênant.
Est-ce que vous avez déjà dit à un client qu'il ne se sentait pas à l'aise dedans, mais ça se porte serré?
Alors, quand c'est trop petit, ça se détend. Quand c'est grand, il faut mieux être à l'aise. Et puis surtout, des fois, on vendait des chaussures à un type qui venait simplement vous demander le nom d'une rue.
Ça, c'est balèze.
Et si ça ne marchait plus, vous seriez prêt à revendre des chaussures?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
En tout cas, il a gardé le savoir-faire.
On aura une adresse.
Et en tout cas, c'est à cette période-là, pendant les castings, que vous finissez par rencontrer Téchiné.
Oui, absolument.
Et vous lui racontez un peu ce que vous voulez, quoi,
Téchiné. N'importe quoi, je lui dis n'importe quoi. J'ai pas de CV, donc je m'en invente un. Sauf que je mélange les films et les metteurs en scène. Donc, moi, à l'époque, j'étais fan de Belmondo. Et je lui dis, j'ai joué dans le marginal de Jacques Deray. D'Henri Verneuil, pardon.
Ouais.
Alors que c'était Jacques Deray. Sauf que Jacques Deray, à l'époque, ça me disait rien. Et il me disait, ah bon? Il me dit, mais je vous ai pas vu dedans. J'ai merde, il l'a vu, merde. Alors je lui dis, j'ai été coupé au montage, mais j'ai joué dedans. Enfin, je me suis inventé plein de. Et en fait, ce qui l'intéressait chez moi, c'était surtout que je n'ai rien fait. Et moi, je m'évertuais à m'inventer un CV. Voyant que je mentais comme un arracheur dedans, en fait, ça l'a plutôt séduit.
Est-ce que ça sert d'être justement vendeur aux puces pour avoir le bagou pour se vendre soi en casting derrière?
Les puces, c'est une des meilleures écoles. Parce que. Je me souviens, avec mes camarades, on s'inventait des personnages. Et il fallait le tenir, parce qu'il ne fallait pas rater la vente. Donc, on se lançait des défis. On disait, tu vends, la prochaine vente, tu la fais en bègue.
Non.
Hein, j'assure.
Dégage, quoi, des défis.
Ouais, des défis comme ça. Hein, ils disaient, alors toi, tu le fais, mais avec la voix de Poivre d'Arvor. Et évidemment, on était payé à la vente, donc il fallait faire le con, évidemment, mais surtout réussir la vente.
Assuré, ouais.
Donc, il y avait quand même cette pression-là, et qui vous obligeait à vous amuser, mais avec le plus grand des sérieux.
Génial.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Catherine, vous venez nous présenter une pièce que vous allez interpréter, mais dont vous avez eu l'idée, qui s'appelle La nostalgie des blattes. Avoir l'idée d'une pièce, ça se passe comment? C'est-à-dire que on cherche un auteur, on commence à écrire soi-même et on se dit, j'y arrive pas, je vais donner un autre. Ça veut dire quoi, avoir l'idée d'une pièce?
Non, c'est parti. J'ai une amie, Tania Torrens, avec qui je veux jouer le spectacle.
Ancienne de la Comédie Française comme vous.
Mais oui, mais c'est les meilleurs. Chez moi, les gens virés du français, c'est les meilleurs, je vais faire une troupe. Et
pas bête.
Et ils sont pas si mal.
Il y a un beau casting en tout cas.
Oui, un beau casting à faire.
C'est une bonne idée.
Voilà, c'est une très bonne idée.
Il faut trouver un nom.
Et elle vit souvent en Bretagne, donc on s'appelle le dimanche. Et le dimanche, vu notre âge, on commente avec parfois pas mal d'humour les petits avatars du temps.
Voilà. Excuse-moi, quel est le rapport entre le fait de vivre en Bretagne et de s'appeler le dimanche?
La seule semaine ou jour où tu captes. Voilà,
elle vit en Bretagne, donc on s'appelle le dimanche.
Mais c'est pas ça, mais le dimanche, on a plus de temps pour téléphoner.
D'accord, très bien. Je veux pas rentrer dans votre vie privée, votre planning.
J'ai plus de temps.
Et donc, là, vous avez eu l'idée de vous dire quoi, alors? De vous dire, tiens, on va faire deux dames qui papotent.
On se disait à chaque fois, tiens, ça, vous mettrez ça dans le musée de la vieille. On se disait ça. Et puis, on a un ami en commun, dont on a joué aussi les pièces, qui s'appelle Pierre Note. Et on s'est rencontrés, on lui dit, disons, ça t'inspire pas de parler de ça? Et après, on l'a pas guidé. On lui a juste donné le thème. Et
vous avez un exemple à nous donner d'un échange d'un dimanche soir en Bretagne au téléphone, donc, et qui vous a donné l'idée, enfin, l'un des points de départ? C'était
mais
quoi?
Vous
parlez d'appuyer du beau temps? Vous parlez
mais non,
de...
c'est pas ça, mais ça fait rire. Par exemple, vous prenez le deux bus, vous vous levez pour une vieille dame, et elle vous regarde, et elle vous dit non, pas vous, vous êtes trop vieille. Donc, ça fait partie du musée de la vie. Ça vous fout la pêche pour la journée, d'abord.
C'est du vécu, ça.
Ah ben oui, c'est du vécu.
Vous êtes vraiment levé dans un bus pour une dame qui vous a dit non.
Vous êtes trop vieille.
Vous êtes trop vieille, restez assise. C'est une violence.
Et donc vous avez commencé à noter. Commencé à noter
pas à noter, à se les raconter comme ça pour rigoler, quoi.
Et vous êtes dit bon, alors et si on se retrouvait toutes les deux sur scène, assises sur une chaise, à échanger.
Après, on s'est dit voilà, c'est parti du fait aussi et ça devient de moins en moins courant. Que ni mon amie Tania, ni moi, nous nous sommes fait tirer l'élastique, si j'ose dire.
Lifter le visage.
Voilà. Et bientôt, c'est vrai, les jeunes seront plus commencés d'être vieux.
Oui. Non mais c'est intéressant que la peau...
Et c'est parti de là, et c'est ça qui est développé dans la nostalgie des blattes. C'est-à-dire, on ne sera plus. Donc il faudra exposer des vieux pour leur dire, voilà, des vieuses comme ça.
C'est et les faire se ressemble. Reproduire entre eux aussi.
Bah, c'est difficile quand on est vieux de se reproduire.
La science fait des progrès
incroyables. Et le monde dans lequel vous évoluez, c'est un monde où tous les plaisirs, on va dire, qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sont d'une certaine façon dangereux pour la santé ou étiquetés comme tels, n'existent plus.
Dans la pièce ?
Ouais.
Ah oui, il n'y a plus rien. On est dans un monde aseptisé.
On ne fume plus ?
Non, bah non. On fume plus, on mange plus que des barres de légumes lyophilisés, il n'y a plus rien.
Il n'y a même plus de fromage.
Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de fromage, il n'y a plus de dissidents, c'est-à-dire il n'y a plus d'opposition.
Ouais.
On est dans un régime totalitaire avec des drones qui nous survolent.
Et qui tombent.
Et qui tombent.
Et une brigade sanitaire qui vient vérifier si tout est dans les normes ou pas.
Bah, si quelqu'un triche, si quelqu'un fume, si quelqu'un a des produits. Mmh. Et voilà. Et avant, on s'exposait comme vieille. On venait se montrer et on avait du public. Moi, j'avais un très beau faux Alzheimer.
Oui,
et mon ami a un très très beau faux Parkinson. Enfin, mais il y a plus de monde, il y a plus personne. On est dans une sorte de fin du monde.
Mais c'est pas rassurant d'avoir une société où il y a un peu d'ordre.
Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, vous avez bonne mine. Je vous regarde là, ça m'énerve. D'ailleurs, vous êtes bronzé. Mais je comprends pas, ça va pas.
D'ailleurs, non, je suis au bout du
rouleau. Il y a des lois de travail aujourd'hui, c'est l'annonce. Il y a un truc qui vous stresse.
Et qu'est-ce que vous voulez dire avec ce monde aseptisé? Qu'est-ce que vous voulez envoyer aussi comme message?
Ah, bah, c'est pas moi, c'est l'auteur.
Ah, bah, ouais. Assumez. Non, vous pouvez pas vous cacher maintenant derrière l'auteur, puisque c'est vous le point de départ.
Vous êtes tous les deux en fine entente là-dessus.
Complicité.
Bah, je sais pas, on a l'impression que tout est dangereux maintenant, non? Je sais pas, ça m'énerve, moi. D'ailleurs, j'arrive avec un nana zéro, et qu'est-ce qu'il dit tout de suite, Nagui? Attention, c'est dangereux.
Un soda.
Nana. Non. Alors, non, c'est un coca zéro, on s'en fout.
On n'a pas le droit.
C'est un coca zéro, je vous dis pas, c'est dangereux, je dis pourquoi ne pas prendre un coca rouge,
mais le vrai. Pas devenir une tourte.
Avec du sucre, le vrai coca, c'est lui qui a le bon goût, c'est le vrai coca.
Est-ce que c'est du vrai sucre qu'il y a dedans, Nagui?
Mais on s'en fout, le vrai
goût. On se fout de tout, alors. Non, on parle de rien, Nagui.
Non, c'est un coca gris, coca noir, coca vert, tout ça, c'est pas le vrai coca. Le vrai toi, tu bois le gris, voilà.
Regarde.
Daniel, il est beaucoup plus cocaïne, hein. C'est complètement différent.
Non, mais. Pour l'instant, je suis coca.
Ça, c'était une réflexion plus de goût que de on a le droit ou on n'a pas le droit.
Oui, mais de toute façon, on n'a plus le droit de rien. Et puis, il faut marcher. Et puis, on va avoir des frigos qui vont nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger. C'est insupportable, enfin.
Le nombre de calories par jour qu'il faut consommer.
Exactement. Des montres qui racontent tout. Des trucs qui nous espionnent. Ah non, non.
Ah, les montres à celles qui vous disent le nombre de pas que vous avez fait.
Oui, c'est insupportable.
Il faut se lever, il faut s'asseoir.
C'est ça.
Quand il faut faire pipi, si ton cœur va trop vite.
Non, c'est trop tôt. Ah bon, bah trop tard.
C'est la dictature de...
De la montre.
Bah, je sais pas, de cette nouvelle technologie,
non,
du futur, quoi.
C'est la dictature d'une fausse éternité.
Ouais.
C'est-à-dire comme si on avait la sensation qu'on est éternel.
C'est d'abord extrêmement drôle, hein. Encore une fois, il faut préciser, c'est au théâtre du Rond-Point, la nostalgie des blattes à partir du 5 septembre prochain, la semaine prochaine, jusqu'au 8 octobre avec Tania Torrens, la nostalgie des blattes. Alors, il faut expliquer, on l'a un peu dit tout à l'heure avec le monde aseptisé, mais le titre, la nostalgie des blattes.
Vous vraiment toucher le fond, hein, pour avoir la nostalgie des blattes, vous croyez pas? Vous en avez déjà eu des blattes? Moi, j'en ai eu.
Non.
Ouais, ouais,
à la maison.
C'est pas ragoûtant.
Ne ça pique pas, hein, mais.
Ah, non, mais c'est.
C'est un.
Ouais, ça fait une drôle de.
Ça fait un drôle de truc.
C'est comme les cafards.
C'est comme un cafard,
oui,
mais c'est marron.
Oui, puis c'est veule.
Alors les cafards, il paraît que c'est attiré par la chaleur.
Les blattes aussi.
Ah, d'accord.
Ça s'installe dans les conduits de chaudière, des trucs comme ça.
Voilà, d'accord.
Et après, vous en avez plein partout. Vous pouvez pas sortir un morceau de viande, vous en avez 15 dessus.
Donc le symbole de dire, on est dans une société aseptisée, on en vient à regretter les insectes et les blattes. Quoi,
voilà, les blattes, c'est un truc qui... Ça pique pas, mais c'est dégueulasse quand même, dégoûtant.
Le se retrouver seul avec des, alors je sais pas si on a des drones, on n'a pas vu le jeu et la mise en scène. Encore une fois, ça démarre que la semaine prochaine. On a lu le très bon texte et ça met en appétit. Vous êtes toutes les deux du début jusqu'à la fin
assises,
d'accord, c'est essentiel.
C'est difficile.
C'est vrai, ça fait.
Ah bah pour moi, c'est très difficile.
Vous avez la bougeotte?
Bah, c'est-à-dire, on a quand même un échange qui parfois est violent, et la violence assise c'est beaucoup plus difficile que la violence debout.
Mais c'est la mise en scène qui a dicté
Mais c'est pas ça, on est scotché à nos poches.
Et les drones qui tombent.
Vous verrez, vous en aurez des poches. Ah ben voilà, je vois des gens qui opinent. Ça va, monsieur? Bougez pas.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Ah, le théâtre. C'est bien beau, mais si on se faisait une petite pause musicale. C'est cadeau, c'est pour moi. Loyal Garner, Ain't Nothing Changed.
I kind of miss my student loan. I miss sitting in the student home, sharing stories. Now I sim and sipping sort of wrong, walking like I've been talking the talk, but can't afford a phone. Trust, I'm all alone, panicking to play it safe. This talk of paper chase is forcing me to stay awake, living this layer cake where others will say it straight. Say they got my back and that they're praying I'ma pave the way, like it's the great escape. Brothers doing better than me, I'm in a hurry, worry what if they forget about me. I'm just another number, nothing when the check will bounce. See, I went moving for money, but there's nothing but debt around me. So when the rest have found me bugging in the brain, and I'm somewhere between the struggle and the strain, they ask why every song the same, and I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Just cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Cause this is for the men of the house who were far too young. See, your friends are going out before you can't do none. You're raising funds for your mother and your can't do sons. Up in the rubble, raising trouble. What you can't do is run. And trust, I feel it, but can't conceal it. See, this inner city responsibility's killing me. I start to shiver when I think of all the I need. And see all my brothers burning paper on that sticky greed. Picking the thickest leaves, stuck in the mist. Saying it, I should have quit, but couldn't resist. And now they sit with a lark, a little luck and a wish. But trust, they still blow their mother a kiss. They're living up in the bits and slip stagger through the puddles in the pain. Somewhere beneath the rubbles in the rain. They ask why every f***ing song the f***ing same. And I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Just cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed, saying ain't nothing changed. I'm not, cause us ain't nothing changed. Just cause ain't nothing changed.
Vous êtes bien sur France Inter, c'était Loyal Garner avec Ain't Nothing Changed. Mais ne bougez pas, le meilleur de la bande originale, ce n'est pas fini, loin de là. La preuve avec le petit nouveau, Tanguy Pastureau.
Et Tanguy, ça commence mal pour vous, vous n'avez pas passé un bon été apparemment.
Non, car je suis un homme d'habitude, je change rarement de slip et je porte le même parfum depuis 10 ans, l'Axe pour homme au musc boisé, qui me donne l'illusion, moi qui suis un babtou fragile, d'être en réalité un caribou à grosse bourse sans période de rut. Alors quand en juin, France Inter m'a appelé pour me dire « Viens avec nous mon bichon, tu incarnes le renouveau de cette radio », j'étais perdu. J'ai répondu « Mais est-ce que je risque pas de croiser des gens de gauche ?» Ils m'ont dit « Non, non, on va te mettre avec Nagui ». J'ai répondu « Alors, ok ». Je passe d'une radio rouge à c'est une vrai. Autre radio rouge. Le rouge est le fil conducteur de ma vie. Je vais finir soit chez Romanov, soit en tant que gastro-entérologue à traiter les hémorroïdes des gens.
C'est pareil.
Alors, tout l'été, j'ai tremblé de stress et d'excitation mêlée, tel un jeune boxeur thaï sapé d'un short trop court qui verrait débouler derrière lui Frédéric Mitterrand criant miam miam. À l'idée de vous côtoyer, Nagui, vous que je regarde à la télé depuis que je suis tout petit.
Merci.
De savoir que je vais vous voir tous les jours à midi sans avoir à me fatiguer à zapper sur la 2, ça me rend aussi extatique que l'est Nicolas Bedos chose quand quelqu'un lui parle de lui. Mon été, donc, n'a pas été à l'image de celui de Macron, le Jupiter du Touquet, le Gosbeau du 6-2, notre Toy Boy, auquel on pense les soirs de canicule, les tétons durcis par l'envie d'être Brigitte juste pour une heure. Parce que lui, s'est éclaté. Il a vécu le même été que le vendeur de chichi qui aurait eu la chance d'avoir sur sa place Gérard Larcher et David Douillet. Il a plus lâché les élastiques que Sharon Stone quand elle se gratte derrière l'oreille. Exemple, le 20 juillet, Macron rend visite aux militaires. Donc là, il se dit, mon amour, mon Napoléon 2.0, tu vas te retrouver face à des mastards en treillis, des bêtes. Si tu débarques en petit costume cintré, on va te confondre avec Neurone Unique, le chihuahua de Nabila, qui se retrouvait dans un combat de pitbull sous frolic transgénique. Et du coup, il enfile une tenue de pilote de l'air. Hein, ce sont ces gens qui prennent 4G sans avoir acheté un iPhone.
Non, mais c'est normal, il a un petit côté caméléon, il s'adapte aux circonstances, à l'environnement, c'est logique.
Absolument, il voit des aviateurs, il vient en aviateur. Avant, il avait vu des sous-mariniers, il était CP en sous-marinier. Donc, heureusement qu'il n'a pas fait de visite au Cap d'Agde, parce qu'il serait retrouvé dans les dunes, nu tel une chanteuse de R&B, en compagnie de Gunther, un Allemand au corps tellement en feu que les pompiers auraient tenté de le fixer. En août, Macron se taille à Marseille. Donc là aussi, il se dit, allez-y, costume local. Et il se fait photographier en maillot de l'OM, l'un des 19 clubs qui n'ont aucune chance de gagner le championnat depuis que le PSG a Neymar.
Et Mbappé.
Un malheureux footballeur abusé par son coiffeur visagiste aveugle. Bref, si Macron fait rendez-vous en terre inconnue, ce sera le seul à se tailler dans la jungle en étui peignien avec une sarbacane et à dire à Lopez, ciao du gland, je pars avec mes potes les boroboros chasser la migale pour la soupe de poil de ce soir. Avec son équipe de com' derrière en train de hurler, Dieu, pouvez-vous s'il vous plaît caresser la tête de ce chef pygmée qu'on fout de ça sur Instagram. Merci votre Altesse, centre du monde, douceur exquise. Alors Macron ne fait pas que se déguiser, il se maquille aussi. Hein, il en a eu pour 26 000 euros de cosmétiques en 3 mois. Pareil que Boy George en 84, hein, sauf que lui, ça se voit pas. Alors qu'il a seulement 39 ans et pas une ridule. Donc si on avait élu Juppé, là on serait déjà en train d'appeler les Chinois pour leur dire « Les mecs, servez-vous, le pays est à vendre, on n'a plus de sous, tout est passé dans le fond de teint du croque-mort. Hein, » même le type qui fait le père Fourasse sur le Fort Boyard se fait moins ravaler la face que Macron. Parce que lui, alors il se déguise, il se maquille, ce mandat, ça va se finir chez Michou avec Gérard Collomb en Dalida. À l'Elysée, c'est le carnaval de Rio sous Poppers, mais étendu sur 12 mois. Grâce à Macron, tous les jours, c'est la Saint-Sylvestre. Alors, bonne année à tous.
Merci.
France Inter. La bande originale.
Éric Lartigot et Emmanuel Devos sont nos invités et vos oreilles ont sifflé d'ailleurs, Leïla, quand on vous annonçait leur venue.
Et oui, et quand je pense à vous, finalement, il y a une forme de point commun. Quand je pense à vous, Emmanuel Devos, je pense à ça.
Alors m'expliquer, hein.
Et ouais.
Céline.
Moi, j'aime bien Céline.
Ah bah, je comprends.
Céline Dion. Et en fait, dans les interviews, Emmanuel Devos vous expliquait que on vous prend tellement pour une actrice dite intello que quand vous parlez de Céline Dion, tout le monde est assez étonné.
Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que...
Bah, oui ou non.
C'est trop flou.
Écoutez, Emmanuel, réveillez-vous. J'ai remarqué que on met les gens vraiment. J'ai souvent entendu des journalistes, notamment sur cette antenne, qui étaient étonnés par on ne vous attendait pas là, alors que tout un chacun a le droit d'être multiple.
Pas ici.
Non mais à tel point vous êtes obligé de le revendiquer pour expliquer que vous avez le droit d'aimer des choses très différentes et même populaires quoi. C'est quand même fou de devoir expliquer ça pour changer l'image en fait.
Oui oui, mais ça c'est vous savez, comme vous dites, il y a des marronniers, vous savez, dans les questions. Alors c'est aux actrices, on parle beaucoup de chirurgie esthétique.
Ah bon,
même dès l'âge de 25 ans hein. Et alors je vous dis pas après. Et puis oui, les goûts qui étonnent. Vous aimez ça, vous aimez ci. Oui,
on parlait d'étiquette de festival américain. Vous avez l'étiquette d'une actrice d'art et d'essai ou un télo, donc qui ne peut pas aimer la musique populaire. C'est ça, l'image.
Ouais, qui a fait forcément qui ne lit que des grands textes le soir quand elle rentre à la maison.
Et, je déclame
Claudel à mes enfants.
Et d'ailleurs, justement, en parlant de vos enfants, j'ai lu aussi un truc assez drôle, c'est que vos enfants ont commencé à vous regarder avec encore plus d'étoiles dans les yeux le jour où vous avez participé à Fort Boyard.
Je veux oublier cette aventure épouvantable.
Ben moi, je trouve ça drôle.
Voilà, ils ne le savaient
pas.
Non, mais je l'ai fait à cause d'eux et j'ai été humiliée, eux aussi. Voilà, c'est bien fait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter et faire ce que les enfants
font. Fort Boyard, c'est pas très Deauville.
On est d'accord.
C'était un cauchemar.
Enfin, mais ça... Vous étiez avec quoi, des araignées, des tarantules,
oui, alors
des
déjà
rats,
j'avais
des
dit que j'avais le vertige et ils m'ont voulu me faire faire une... Il y avait Passepartout qui se plaignait de ses heures d'intermittent. Il y avait Olivier Mine qui était... C'était exceptionnel. Passepartout est venu me parler, il était là, ouais, moi je sais pas si je vais avoir mes heures. C'était surréaliste.
C'est génial.
Qu'est-ce qu'on Olivier Mine était au bord de la dépression. Il y avait la jeune fille là qui était plutôt, elle était bien. Mais et moi j'ai rien fait, j'ai rien voulu faire. J'ai tout fait foirer en plus. Je les ai tous embarqués sur la mauvaise piste.
Vous avez connu la boule ou pas?
Non.
C'était en 2006. Tom Villa sort de Fort Boyard. Ouais, mais tu as fait plusieurs fois.
Je l'ai fait deux fois, mais on va s'arrêter. Il y a un moment où. Non, c'est drôle. C'est très drôle à faire. Faut que je m'exprime sur le sujet.
On va quand même dire c'est pour une bonne cause.
Non, mais
aussi.
C'est exactement
pour
ça.
Une association.
C'était pour Lino Ventura, le personnage, ouais. Ben, on n'a pas gagné. C'est quoi là
Un boyard.
Comment ça, vous n'avez pas gagné? Je croyais que tout le monde gagnait forcément quelque chose.
Non, parfois tu peux ne pas trouver le mot.
En plus, c'était de ma faute.
C'est pas truqué.
Notons au passage que pour les intermittents, c'est important de faire 16 heures. C'est pas sujet à rire. On est sur France Inter.
De faire Fort Boyard.
Mais vous n'avez pas entendu quand même Emmanuel Deveau, c'est dit on n'a pas gagné un centime, puis dans une toute petite voix, il fait et c'est de ma faute. Ça vous a fait perdre votre équipe.
C'est de ma faute parce que, vous savez, il y a une énigme qu'il
faut. Il faut trouver un mot à la fin.
Vous voyez voir le vieux. Là, comment il s'appelle?
Le père Fourreau.
Michel Drucker.
Et je n'ai absolument rien compris, alors que c'était d'une simplicité infantile. Après, j'ai dit, ah, mais il faut faire. Enfin, bon, je
faut
sais plus ce que j'ai fait.
Passons à autre chose. Faut pas parler de ça. Regardez dans quel état.
Mais initialement, pourquoi j'en parle, Eric Lartigo? Parce que c'était pour faire plaisir à vos enfants. C'était une forme de. Une maman qui veut rendre fière ses gosses, en fait. C'est ça l'idée.
Ils avaient honte de moi.
Et donc là, vous avez participé à Danse avec les stars, à la demande de vos enfants. Êtes-vous sûr de ce choix?
Non.
Et Top Chef, alors c'est pour quand?
C'est dommage, il n'y a plus Splatch. C'est très dommage.
Et en matière d'image.
Non, mais je ferais bien qu'il veut gagner des millions.
Ah ouais, ça, oui, mais bien. Eux ne veulent pas, ça s'est arrêté.
C'est fini. Je ne plus jamais la télé.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, c'est bientôt fini, mais je sens que vous réclamez encore un peu de musique. Vos désirs sont des ordres, chers auditeurs. Larita Mixuko, Ding Dang Dong.
J'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est un confet. Par la fenêtre ouverte feuilles du peuplier, la lune pâle traîne encore un peu. Regarde-la, elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore tend fort, fait couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte.
Thank you.
C'était l'Erita, Rita Mitsuko, avec Ding Dang Dong.
Qu'est-ce qu'il y a encore
bizarre ce matin. Un sentiment étrange m'envahit rien qu'à l'idée de vous narrer mon songe. Un songe qui fit suite à la lecture de cette info qui nous révèle qu'il y a 20 ans et un jour, dans la nuit du 30 au 31 août 97, on avait perdu toute trace de Jacques Chirac. Alors que Lady Diana venait de rentrer en entier dans la boîte à gants de sa Mercedes, on cherchait à joindre partout le président. Il demeurait introuvable. Finalement, on a appris bien plus tard qu'il était en visite chez une actrice. Il passait la nuit avec Claudia Cardinale.
Non.
Eh ouais. Claudia Cardinale, sublime comédienne, héroïne, entre autres, du film « Il était une fois dans l'Ouest ». Une info qui provoquait en moi un trouble, pour ne pas dire une troublance, voire même une troublitude. Mon sommeil en fut agité aussi par l'excitation et j'entamais un rêve qui me plongea illico dans l'atmosphère brûlante du film de Sergio Leone. J'étais en tenue de cow-boy, le soleil frappait comme un sourd le feutre de mon Stetson. La poussière cognait contre le foulard que j'avais placé sur mon nez et mon derrière souffrait le martyre à force de cogner la selle de mon canasson éreinté. Bref, mon cheval, mon cul et moi, on n'en pouvait plus. D'un coup, j'arrive à hauteur d'une masure style saloon qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à celle dans laquelle la belle Claudia logeait dans le film de Leone. Je mets pied à terre et scrute l'horizon. Rien. Rien que le vent qui balayait le sable du Far West. Le vent, puis un chacal qui me guettait, comme l'air de dire « Si tu tombes, gringo, tu me serviras de repas. » Confiant mais prudent, je serrai la crosse de mon Smith & Wesson. D'un seul coup, un bruit vient me tirer de ma torpeur. C'était le grincement d'une des deux mini-portes du saloon, un grincement qui résonnait comme une invitation. Ni une ni deux, je rentre et découvre un panneau sur lequel on pouvait lire « Monte ». Je m'exécute. Une fois à l'étage, une porte ouverte. Je rentre. Là, sur un lit, un nouveau panneau qui dit « Prends un bain, reviens, allonge-toi et passe-toi les menottes. » Nom de Dieu, ça ne peut être que Claudia Cardinale qui joue avec mes nerfs et ma libido. Je me précipite dans la salle voisine où un bain fumant m'attend déjà. En deux temps, trois mouvements, je suis nu. Je me plonge dans la baignoire. Avec entrain, je me lave. Je me lave, je savonne, je rince, je me relave, je me rince, je me re-savonne. Ah, 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 je me sèche, je m'épile, je passe de la pommade, m'asperge de parfum. Et enfin, regagne la couche. Comme un timé auparavant, je m'allonge et me passe les menottes aux chevilles, aux poignets, rivé au lit. Ça y est, je suis nu, offert et entravé, prêt à servir d'objet aussi infernal que sexuel à la belle Claudia. Au bout d'une heure, deuxième porte s'ouvre. Je sens une présence là, dans la pénombre. Deux heures plus tard, près de la tente infernale, une ombre se dessine. Une angoisse teintée d'impatience et d'excitation fait trembler mon corps tout entier. Puis l'impatience me quitte, l'excitation s'enfuit et l'angoisse s'accroît. Ce n'est pas Claudio Cardinal qui me rejoint, c'est Charles Bronson. Il me regarde ses yeux perçants. Il est presque nu. Il porte juste son chapeau et ses bottes. Il s'approche. Je suis terrorisé. Heureusement, au moment même où Bronson pose la main sur ma cuisse pétrifiée. Ah ! Je me réveille, nom de Dieu ! C'est pas passé loin, j'ai failli me faire humilier par Bronson. Quand je pense quand même que j'étais à deux doigts de me taper Claudia Cardinale.
Merci, Yvonne.
Sortez vos mouchoirs, mais oui, allez-y, je comprends, le meilleur de la bande originale, c'est fini. Mais la bande originale revient bien sûr au grand complet dès lundi avec Philippe Lelièvre et la mythique Claire Nadeau. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h dans Vous les femmes, une émission qui forcément deviendra culte puisque bah, c'est moi qui la présente.